remue-ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bienvenue à toutes aujourd'hui sur Remue-ménage et pour aujourd'hui je vous propose une rencontre passionnante comme je vous l'avais annoncé la semaine passée, une rencontre avec Corinne Wacker. Corinne Wacker est ethnologue et travaille à Zurich en ce moment, au Poly à l'université de Zurich, mais elle a une grande expérience, entre autres elle a passé 3 ans de sa vie au Kenya, elle en revient tout juste où elle a travaillé beaucoup avec des groupes d'entraide de femmes et nous allons découvrir avec elle quelle est la tâche que se fixent ces groupes d'entraide et comment la coopération technique suisse, par exemple, se propose de travailler avec ces femmes. Mais en attendant, comme demain c'est le 15 mars et que ce jour-là, les Brésiliens vont applaudir et fêter leur premier président, même si ce n'est pas forcément celui que tout le monde aurait aimé avoir, eh bien oui, en la personne de M. Fernando Collor, eh bien on aura au Brésil demain, en entrée en fonction, le premier président élu vraiment démocratiquement au suffrage universel au Brésil depuis 25 ans, puisque c'était en 1964 qu'il se passait un coup d'état militaire dont la répression féroce a eu ses effets pendant de nombreuses années au Brésil. Alors un petit coup de chapeau à la démocratie présidentielle au Brésil et je donne la parole d'abord à... J'oublie son nom, Elba Ramalho. J'ai tant de nostalgie de vous.
Eu posso.
Elba Ramalho, une autre toute grande chanteuse de la musique brésilienne, c'est Maria Bethânia. Tout va recommencer de nouveau une autre fois.
Começaria tudo outra vez. Se preciso fosse, meu amor, a chama no meu peito ainda queima, saiba, nada foi em vão. A Cuba livre da coragem em minha mão, a dama de lilás me machucando o coração, a febre de sentir seu corpo inteiro coladinho ao meu. Então eu cantaria a noite inteira, como eu já cantei, cantarei as coisas todas que já tive, tenho e sei que um dia terei. A fé no que virá e a alegria de poder olhar pra trás e ver que voltaria com você de novo, viver nesse imenso salão ao som desse bolero. Vida, vamos nós, e não estamos sós. Veja, meu bem, a orquestra nos espera, por favor, mais uma vez, recomeçar ao som desse bolero. Vida, vamos nós, e não estamos sós. Veja, meu bem, a orquestra nos espera, por favor, mais uma vez, recomeçar ao som desse bolero. Vida, vamos nós, e não estamos sós. Veja, meu bem, a orquestra nos espera, por favor, mais uma vez, recomeçar.
Et le carnaval, c'est bien sûr la fête aussi au Brésil demain.
Bater do tambor, toda eletricidade, trio elétrico, seu gerador, toda energia que magnetiza a cidade. Para pra deixar ouvir o bater do tambor. Mão de preto no couro,
ui, ui.
E o Brasil grita em coro,
ui, ui.
E mori, mori, ô babá, e mori, mori, ô babá. Batendo tambor, toda eletricidade, trio elétrico, seu gerador, toda energia que magnetiza a cidade. Para pra deixar ouvir o bater do tambor. Mão de preto no couro,
ui, ui.
E o Brasil grita em coro,
ui, ui.
É mori, mori, ô babá, é mori, mori, ô babá.
Ça, c'était Gal Costa, une toute autre grande chanteuse. Et oui, les trois plus grandes que nous venons d'entendre, Elba Ramalho, Maria Bethânia et Gal Costa. Je vous ferai entendre tout à l'heure les plus jeunes. Et oui, il y a encore plein de jeunes qui ont repris la relève au Brésil. Mais maintenant, il est temps que nous retrouvions Corinne Vacker. Corinne Vacker, qui, je vous le rappelle, est ethnologue zurichoise et qui a vécu 3 ans de sa vie au Kenya avec les groupes d'entraide de femmes qui existent d'ailleurs depuis fort longtemps, qui ne sont pas du tout une invention des groupes de développement qui partent depuis l'Europe. d'Europe ou d'ailleurs. Malheureusement, elle n'est pas avec nous aujourd'hui, mais parce qu'en ce moment, elle donne une conférence dans un grand séminaire qui est organisé à Lucerne aujourd'hui, qui s'appelle « La femme et l'eau », organisé par le Conseil international des femmes, suite à la conférence mondiale des femmes qui avait lieu en 85 à Nairobi, et dans le cadre de la décade internationale de l'eau, qui s'écoule de 1980 à 1990. Alors, comme elle ne pouvait pas être là aujourd'hui en direct avec nous, je l'ai rencontrée la semaine passée, et ça a été une journée merveilleuse passée avec elle. Et je vous laisse partir avec elle et moi, puisque j'étais du voyage pour le Kenya.
Je me trouve en route au Kenya, j'ai quitté Nairobi et je m'avance vers Laikipia, la région dans laquelle j'ai travaillé pendant 3 ans avec et sur des groupes d'entraide de femmes. Cette musique, on l'entend souvent dans les taxis collectifs quand on voyage ensemble, où il y a 15 à 20 personnes coincées les uns à côté des autres. On roule à toute vitesse, alors le paysage qui passe à gauche et à droite, ce sont des arbres d'acacia, parfois il y a des girafes qui passent, des animaux sauvages, il y a peu de population, peu de sédentarisation. Nous sommes dans la région semi-aride du Kenya et bientôt c'est Nanyuki qui arrive, la capitale dans laquelle j'ai travaillé.
Bonjour Corinne, alors ça y est, on est parti, on est embarqué pour le Kenya pour l'espace d'une heure de conversation avec vous. Je ne sais pas si une heure ça suffira d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de choses à se raconter, vous avez une expérience tellement immense. Je vous présente Corinne Vacquer. Corinne Vacquer est ethnologue, elle est spécialiste en anthropologie du développement et surtout en anthropologie appliquée aux problèmes de développement. Elle a travaillé depuis longtemps sur ces questions, entre autres d'abord au Ladakh, et elle vient de rentrer de 3 ans de vie au Kenya, où elle a essayé d'appliquer ses recherches aux problèmes de développement en relation avec un groupe de la DDA, de coopération de développement. Et actuellement, de retour, elle donne des cours à l'université à Zurich et à Berne, sur ces mêmes questions bien sûr, et surtout, et depuis son travail au Ladakh, au Kenya et actuellement pour nous en Suisse, eh bien elle se préoccupe de savoir quel est le rôle des femmes et comment participer, proposer des projets de développement qui respectent les initiatives et les projets des femmes. Alors Corinne, vous venez nous raconter le paysage du Kenya quand vous avez débarqué un jour dans ce pays. Vous y alliez pour faire une recherche, comme je viens de le raconter. Mais alors très concrètement, comment ça s'est fait? Vous êtes arrivée et puis tac, on vous a déposé dans ce village et vous vous êtes débrouillée comment? Vous avez rencontré les premières femmes. Comment ça s'est passé d'arriver sur le terrain quand on vient toute fraîche depuis Zurich?
En effet, on m'a demandé de venir au Kenya pour travailler, chercher des solutions à la question comment coopérer justement avec ces groupes d'entraide de femmes. Alors je suis arrivée avec un de ces taxis que j'ai décrit tout à l'heure, d'abord avec l'avion, puis après avec un de ces taxis. On arrive et avant moi, sur place, il y avait déjà un team de recherche écologique, recherche hydrologique, recherche pédologique et autres, qui avaient déjà des résultats concrets, scientifiques, sur des problèmes qui se posaient pour la coopération au développement. Et ils ont dit, voilà, alors te voilà, commence, raconte-nous, explique-nous comment on va pouvoir coopérer, trouver des solutions avec la population. Il y avait avant moi aussi une sociologue kenyenne qui a déjà travaillé sur les groupes d'entraide de femmes, mais qui malheureusement nous a bientôt quittés. Et en me quittant, elle m'a laissé son premier rapport qu'elle avait fait, ses premiers résultats de recherche qu'elle avait fait, un questionnaire sur ces groupes. Elle avait dit qu'il y en avait plus que 200 sur notre terrain qui nous intéressait, sur la région qui nous intéressait. Et puis voilà, alors j'ai lu ces résultats, j'ai écouté toutes les questions autour de moi, puis je me suis dit, bon, l'intéressant, ça sera de rencontrer ces groupes eux-mêmes, de commencer à dialoguer, à rencontrer ces femmes. Alors, j'ai quitté la capitale du district dans laquelle nous nous trouvions. Je suis partie dans une de ces innombrables petits villages qui ressemblent plus à une agglomération de petites maisons comme un slum rural. Et entre autres, je suis arrivée à Viomiririe. Et à Viomiririe, j'ai rencontré des leaders des groupes de femmes et tout de suite elles m'ont dit « Ah, tu viens, tu es encore une rechercheuse ». Alors nous avons eu déjà plusieurs personnes qui sont venues nous demander qu'est-ce que nous faisions, qu'est-ce que nous voulions, quels étaient nos buts, quel était notre problème de développement. Toujours de nouveau, il y a d'autres personnes qui viennent de l'étranger et qui nous demandent quels étaient nos besoins, qu'est-ce que nous faisions.
Ça, elles sont habituées à voir défiler les gens comme ça. Mais alors, du coup, elles n'ont pas un rapport étrange avec toi? Elles ne sont pas un petit peu hostiles en disant « Ah, c'est encore la 20e qui défile, celle-là, qu'est-ce qu'elle va encore nous enfiler ?»
Tout à fait. J'avais un peu peur aussi de cette première rencontre, surtout parce que je suis une femme blanche. Et au Laikipia, dans cette région où j'ai travaillé, il y a encore un nombre important de settlers blancs, de fermiers blancs qui engagent des ouvriers et des ouvrières pour travailler pour eux. Alors, c'est encore un signe de stratification sociale. Je me demandais comment est-ce que je vais rencontrer ces femmes et comment est-ce que je vais arriver à trouver justement un moyen pour qu'elles me racontent de ce qui les préoccupe et comment est-ce que je pourrais leur rendre service aussi. Alors, quand elles m'ont dit « oui, tu n'es pas la première qui vient », je leur ai répondu « est-ce que vous voulez entendre les résultats qui ont été écrits sur vous ? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez entendre ce que les gens ont quelles conclusions les chercheurs ont trouvées sur vous ?» Puis elles ont dit oui, et c'est après ça qu'on a commencé toute une série de petits séminaires où je leur ai raconté, c'est-à-dire je, c'est toujours faux, le mot je, nous étions toujours trois, nous étions un team, une jeune femme kenyenne, Kikuyu, de l'ethnie majoritaire dans notre région, un jeune homme de la même ethnie et moi-même, un team de trois. Alors voilà, nous avons réuni des membres de ces groupes, il y en avait sept dans la région, sept groupes d'entraide avec à peu près 20 membres par groupe. Alors groupe par groupe, nous sommes allés dans les endroits où ils se rencontraient, par exemple des vieilles écoles vides, etc. Et puis on leur a raconté ce qui avait été écrit sur elles. Après ça, elles ont réagi, elles ont dit « Ah oui, ah non, ça c'est juste, ça c'est faux, tiens, pourquoi est-ce qu'ils ont pensé ça ?» etc. Et comme quand tous ces problèmes sont écrits là dans ces rapports de développement, alors maintenant il faudrait quand même trouver des solutions. Et nous avons après ça pu faire une recherche avec elles. Elles nous ont aidés à faire encore plus de recherches sur les thèmes spécifiques qui se posaient à elles. C'est un thème spécifique, ce sont des petites fermières qui ont trop peu de terre, un lopin de terre trop petit pour vraiment pouvoir en vivre. Et c'est toujours la question de survie dans un milieu rural marginalisé. Au fait, c'est trop sec, on a une récolte sur quatre seulement, trop peu de terre, trop peu d'argent, ce sont ces problèmes-là. Alors, au fait, elles nous ont beaucoup assisté à chercher des solutions pour leurs premières questions qu'elles avaient concernant leur développement. Puis, une année plus tard, nous sommes revenus avec les résultats de la recherche de notre équipe. Et c'est là qu'elles nous ont commencé à demander de les assister à trouver des solutions très spécifiques sur des problèmes. Alors, un de ces problèmes qui s'était posé, c'est que jusqu'à présent, elles avaient l'habitude de faire beaucoup de couture et de tricotage. Or, le tricotage, ça se vendait mal. C'était une technique qu'elles avaient apprise. Peut-être nous en reviendrons.
Oui, bien sûr.
C'est la tradition de la promotion féminine un peu dans cette région. Bon, alors, elles avaient un problème, justement, ça se vendait mal, ces tricotages. Elles voulaient faire quelque chose d'autre. Elles voulaient faire un magasin, une quincaillerie pour vendre des
objets utiles à construction et autres, oui.
Exactement. Ou bien elles voulaient faire du cuir, des objets de cuir, parce qu'elles avaient beaucoup de chèvres. Les chèvres se portent très bien dans ce milieu. Problème écologique, mais pas problème économique lié aux chèvres. En tout cas, c'est ce qu'elles voulaient faire. Et alors, c'est avec elle qu'on a pu discuter comment elle pourrait réaliser ces projets qu'elles avaient choisis, ces deux exemples de projets.
En l'occurrence, elles ont tout de suite, par rapport à tous les, soit les premiers résultats que vous leur aviez vous confiés, plus ceux que... qui ont été le fruit de la nouvelle recherche que vous aviez, vous, enclenchée à partir de votre arrivée, elles ont, elles, émis des souhaits de voir se développer de nouveaux projets.
Voilà. Et c'est peut-être ça qui est un peu spécial à la, matière, à la manière comme on a approché ces groupes, c'est qu'on n'est pas venu avec nos questions, on n'est pas venu avec nos problèmes qu'on voyait chez elles. Mais d'abord, j'ai amené les résultats que je connaissais et je les ai discutés avec elles. Et deuxièmement, il m'a beaucoup importé d'écouter leur perception de leurs problèmes et leurs idées et leurs solutions qu'elles voyaient. Parce que les experts du développement, ce sont les femmes, ce sont elles qui font leur développement et nous, nous ne pouvons seulement les assister dans leur projet ou peut-être les assister en aidant à entrelier les solutions qu'un groupe a trouvées ici, qu'un autre groupe a trouvées là, etc. Alors donc, c'était elle qui avait choisi justement ces deux projets, elle s'intéressait à ça et puis nous avons réfléchi en commun comment on pourrait trouver, comment on pourrait les réaliser.
Alors peut-être qu'on va revenir tout à l'heure à ces exemples concrets de projets que ces femmes ont proposer et comment vous avez pu les aider à réaliser ces projets qu'elles avaient MLMI. Mais peut-être pour qu'on comprenne mieux, Corinne, il faudrait que vous nous expliquiez quand même un petit peu l'état du Kenya. Parce que, bon, pour les, le Kenya, pour beaucoup de gens, c'est les endroits où on va faire des safaris, c'est les images qu'on voit dans les films, Robert Redford, etc. La réalité concrète du Kenya d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est encore ce pays colonialisé par les Anglais, très british? Est-ce qu'on vit encore ça au Kenya aujourd'hui?
Oui, alors le Kenya est un pays très varié selon l'endroit où on est. C'est un pays où il y a que peu de régions qui sont aptes pour l'agriculture, seulement 20% du terrain. Mais c'est encore un pays qui a été très formé par l'histoire coloniale qu'il a eue. Ainsi, nous voyons des régions où il y avait ces réserves pour les groupes ethniques du Kenya, comme les Kikuyu par exemple, ou les Maasai, ou les Tugen, ou les Pokot, etc. Et il y a d'autres régions qui étaient jadis au temps colonial réservées pour les settlers blancs, pour les fermiers blancs, qui avaient l'option de rendre le Kenya productif. Or aujourd'hui, maintenant, comme notre exemple du Laikipia le montre très, très, très visiblement, encore la majorité des terres sont encore des grandes propriétés où on produit du beef exporté d'ailleurs pour faire des hamburgers, souvent.
Et oui. Donc avec à leur tête des blancs qui sont des descendants des colons britanniques.
Tout à fait encore, qui ont un passeport kenyan, mais qui ont la peau blanche, garder la peau blanche, oui. Il y a aussi des grands propriétaires, une minorité de propriétaires kenyans, des Africains, de grands terres. Mais il y a à côté de ça, justement, de plus en plus de petits fermiers qui ont réussi à s'acheter un petit bout de terrain dans cette région. Donc, ce n'est plus comme au temps colonial, pas du tout. Beaucoup a changé, mais on sent les changements et on sent l'histoire. Alors, ce qui m'a frappé tout au début, en arrivant justement à Viomiriri, l'endroit que je vous ai raconté tout à l'heure, c'était de voir à côté, un à côté de l'autre, des grandes fermes où il y a encore des villages pour les ouvriers et ouvrières, les ouvrières qui formaient des groupes d'entraide, mais qui avaient quelques possibilités de projet dans cette situation où elles étaient encore elles travaillaient des terres qui appartenaient à d'autrui. Et à côté de ça, d'autres groupes d'entraide formés par des femmes qui avaient déjà réussi justement à acheter un peu de terre, à redevenir paysannes. Souvent, elles n'étaient pas paysannes au temps colonial où elles étaient dans les réserves. Elles sont venues après. Et ici, donc, elles ont déjà réussi à développer quelques projets, à améliorer l'infrastructure pour leurs besoins. Ainsi, nous avions des situations très différentes, mais c'était toujours l'histoire qui était très... On pouvait la sentir pas sur pas.
Vous parlez beaucoup des groupes d'entraide. Peut-être qu'il est important qu'on définisse en quelques mots ce que c'est qu'un groupe d'entraide et peut-être qu'on pourra même donner la parole à une des femmes que vous avez rencontrées qui nous racontera l'histoire elle-même de son propre groupe d'entraide. Mais en général, un groupe d'entraide, qu'est-ce que c'est ?
Un groupe d'entraide, alors surtout dans le groupe ethnique des Kikuyu, un groupe d'entraide est formé par des voisines de paysannes, des paysannes voisines qui s'entraident dans pour les travaux liés à l'agriculture, la culture des terres ou les récoltes. Ceci s'appelle guatio dans un sens traditionnel de Kikuyu, ça existait entre voisines. Ou bien elles s'entraident quand il y a des problèmes de funérailles, des problèmes de naissance de bébés, ça s'appelle matega. Alors elles s'apportent l'une à l'autre, elles s'assistent en apportant du bois pour faire du feu ou bien en apportant de l'eau. Alors ce sont des groupes d'assistance, d'entraide, mais qui ont changé leur fonction au long de l'histoire. Il y a d'une part ces traditions, justement liées à la tradition ethnique, et d'autre part, les groupes ont été promouvés, ont été formés souvent, oui, formés aussi dans du temps colonial par des femmes volontaires, femmes settlers volontaires qui ont essayé d'apporter le développement.
Donc des Anglaises. Quand vous dites settlers, c'est les gens qui s'étaient établis en venant de l'Angleterre.
Oui, oui, oui. Oui, voilà, ces femmes anglaises qui s'étaient établies au Kenya et qui avaient l'attitude qu'il fallait développer les groupes de coopération entre des femmes africaines et des femmes surtout de toutes couleurs de peau différentes. C'était l'idée de leur apprendre l'hygiène, apprendre la couture, etc. Ceci était dans les années 50.
La bonne charité des riches bourgeoises anglaises.
Tout à fait, la bonne charité, tout à fait, et oui, tout à fait. Mais ceci, cette tradition, alors c'est entrelié avec l'autre tradition plus ancienne, entrelié aussi avec une tradition formée dans les réserves, dans les années 50-60 justement, où ces femmes étaient souvent laissées derrière quand les hommes travaillaient dans les régions pour les Blancs. Alors il y a une multitude de traditions qui s'est entremêlée, et au fait qui a été poussé surtout par le premier président du Kenya, M. Jomo Kenyatta, qui a rendu courage aux femmes en leur disant « Oui, formez des groupes d'entraide, oui, assistez-nous à notre développement et nous allons vous assister pour recevoir des terres, pour recevoir des possibilités d'assister à notre développement national. » Alors il a pu intégrer cette tradition d'entraide diverse dans une politique nationale, et ceci a eu des répercussions qui existent aujourd'hui.
Donc ça n'a rien à voir avec la création de groupes modernes liés à une libération des femmes. C'est vraiment une tradition ancienne qu'ont les femmes au Kenya de s'entraider pour dans leur village, dans leur voisinage.
Tout à fait. Mais d'autre part, naturellement, quand toute organisation qui aimerait promouvoir le développement est contente de trouver sur place des groupes d'entraide existants qui pourraient peut-être être des parterres aussi pour promouvoir un développement moderne, adapté aux questions qu'on se pose aujourd'hui.
Nous y reviendrons à ce lien entre les organisations de coopération, quel lien ils ont avec ces groupes de femmes. Mais peut-être pour finir notre petite entrée au Kenya et pour bien comprendre ce qui se passe, vous disiez tout à l'heure, vous parliez de Kikuyu, de Maasai, c'est les deux exemples d'ethnies qui existent au Kenya. Au niveau du quotidien des femmes, par exemple, ça signifie des modes de vie très différents, suivant qu'elles habitent, elles sont parties de telle ou telle ethnie?
Oui, ce sont des modes de vie très différents liés à une tradition différente. Si nous parlons des femmes Maasai, ce sont des femmes nomades, c'est-à-dire semi-nomades de nos temps. Elles bougent avec le bétail. Si nous parlons des groupes ethniques des Kikuyu, ce sont des petits fermiers. Or, dans la région où j'ai travaillé, il y avait 12 groupes ethniques différents parce que c'est un endroit où de parties différentes de tout le Kenya, les gens achètent des terres, essayent de devenir sédentaires, ou bien qui étaient justement ces ouvriers dans ces grandes fermes anglaises. Et les Anglais avaient la tradition de recruter des gens des tribus différentes pour travailler selon des professions différentes qu'il fallait faire dans les fermes. Alors aujourd'hui, on trouve 12 groupes, au fait, 12 groupes ethniques. Tout à fait ce que vous dites, oui, il y a encore un mode de vie bien différent selon si on est membre d'un groupe ethnique pastoraliste ou bien d'un groupe ethnique d'agriculture, ou bien si on est comme les femmes des Turkana, ni pastoraliste, ni plus fermière, mais seulement ouvrière de jour au lendemain pour gagner sa survie.
Me dijo en que viviré temor hasta cera. kaurua vai kudi gukorwo ndi gikundi ne tondu riria itari handu ndari ta ha gikundi ni kuri maundu mamwe mathinagia muno ngoroini yakwa na kuma ndathie gikundi ne ni ndagire na omenyo na ngigia na uge na ngiona ati ona thina ni mundu wiigagirira.
Ceci est Hannah Mouerou, un des leaders d'un des groupes d'entraide à Vieux-Mériré aussi. Elle nous raconte ici comment elle est venue de cette justement réserve traditionnelle pour les Kikuyu, comment elle a pu acheter un peu de terre et comment elle a formé son groupe d'entraide. Alors quand elles arrivaient, elles étaient toutes neuves, personne connaissait l'une l'autre, on avait de nouvelles voisines, il fallait se connaître. C'est une région où il n'y a ni école, ni médecin, ni centre sanitaire, etc. Alors c'est avec cette alors elles ont décidé de former un groupe. Or, elle nous raconte qu'elle avait déjà l'expérience de groupe d'entraide il y a 20 ans dans l'endroit où elle habitait avant, à Oljororok. Maintenant, en arrivant, elle s'est souvenue de ces traditions et elle a dit « oui, on va former un groupe de femmes ». D'abord, elles ont cultivé l'une pour l'autre, elles se sont aidées justement dans les travaux d'agriculture. Après, elles ont commencé à épargner de l'argent pour s'acheter des tôles ondulées pour couvrir leur maison. Elles trouvent ça très moderne et chic et bien. Et après ça, c'était un projet après l'autre qui se sont suivis. Et encore maintenant, ce qui est typique pour les groupes d'entraide, ils sont engagés dans divers projets à la fois, souvent. Elles font aussi bien un projet qui leur apporte un peu d'argent, comme ce groupe-là cultive pour d'autres fermiers pour avoir un peu d'argent qu'ils peuvent mettre de côté pour s'acheter quelque chose pour améliorer leur maison. D'autre part, elles construisent des tanks à eau parce qu'à présent, elles doivent aller 3 à 4 heures par jour pour chercher de l'eau. Alors, elles ont pu, avec justement l'assistance de la coopération, ça, construire des tanks d'eau. Mais aussi, elles font du tricotage. Et aussi, elles ont un petit magasin. Et quand il y a un problème qui se pose dans la région, quelqu'un tombe malade, etc., alors c'est le groupe d'entraide qui assiste la famille qui en a besoin.
Ne kwari no ritu muno na gutire mundu ungi aikarire kuo utari na hinya kana utari na meciria kana utari na wendi munene ni undu ni kwari na thina ogwata miturire muikarire waku.
Corinne, cette femme que nous venons d'entendre a son histoire particulière, mais vous m'aviez raconté que des femmes, entre autres, se sont battues déjà depuis pour le mouvement de l'indépendance. Donc c'est une longue histoire aussi que certaines femmes ont dans l'entraide et que ça, comme on l'a dit tout à l'heure, ça ne date pas de maintenant. Mais en plus, c'est une étape qui n'a pas seulement été d'entraide au niveau du quotidien, comme vous l'avez dit, mais souvent bien aussi pour gagner l'indépendance du pays, leur participation à la lutte du pays.
Oh oui, tout à fait. Maintenant, et parfois j'ai même eu l'impression que les groupes d'entraide étaient peut-être même un peu plus faibles que les groupes qui avaient jadis. Je n'étais pas très sûre sur ce point-là. Alors ce groupe-là, Hannah Mouerou nous raconte comme elle était justement dans la réserve, elle est venue ici. Mais c'est elle qui m'a dit aussi, qui m'a fait savoir qu'il y avait d'autres groupes d'entraide qui avaient réussi à lutter pour recevoir des terres ou bien à acheter des terres dans notre région. Alors ceci m'a intéressée et j'en ai demandé plus long. Et en effet, il y a un nombre assez important de groupes de femmes qui se sont formées déjà dans les années 40, 50. Bon, elles étaient les femmes des ouvriers sur ces grandes terres qui justement appartenaient aux settlers, British settlers, aux settlers anglais qui habitaient là. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont commencé à coopérer ensemble, à faire un petit jardin ensemble, vendre des légumes, faire des petits travaux pour avoir leur propre argent et lentement, lentement réussir à acheter des terres. Alors nous y trouvons des deux styles. Nous y trouvons celles qui épargnaient l'argent petit à petit pour acheter des terres. Et il y en a d'autres qui étaient un peu plus radicales, qui ont commencé à planter des légumes et des choux dans les terres qui appartenaient aux fermiers blancs. Mais c'était la période de transition, juste avant l'indépendance, et parfois elles ont réussi avec le support des groupements, surtout des Kikuyu, à alors recevoir ces terres et commencer à les cultiver. Pour une femme, surtout des Kikuyu, c'est une question d'identité, d'avoir sa propre terre. Nous avons aussi une autre, si on parle d'histoire, oui, il y a aussi eu la double tradition. D'une part, les femmes qui justement travaillent dans ces clubs formés par les Anglaises, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui apprenaient à tricoter et l'hygiène. Alors là, il y a une jolie histoire que quelqu'un m'a racontée, qu'elles ont commencé à chanter tout en tricotant et la femme anglaise qui travaille avec elle les encourageait. Elle leur disait, c'est très bien si vous chantez, c'est joli, vos chants traditionnels. Or, cette femme m'a dit, oui, tu sais, ce qu'on chantait, c'était des chants de libération.
La révolte insidieuse dans la chanson sans qu'elle comprenne.
oui, un peu ça, oui, vraiment. Et puis, il y avait des femmes aussi qui se sont formées lors du mouvement d'indépendance qui s'appelait Mau Mau dans les années 50, activement dans la lutte guérilla contre les Anglais. Alors, il y a les deux traditions différentes, mais qui se sont entremêlées. Et concrètement, c'était du point de vue des femmes, ceci m'a très impressionnée en parlant avec tous ces groupes qui ont acheté des terres là, dans notre région. C'était toujours la question de redevenir fermière, de ne plus être prolétaire, d'avoir sa propre terre. Ceci est lié aussi aux problématiques de la définition à qui appartient les terres. Qu'est-ce que c'est une propriété de terre? Est-ce que c'est droit traditionnel, le droit moderne? Alors avec l'installation du droit moderne de propriété de terre, les femmes en avaient perdu et elles s'en rendaient compte. Et en s'en rendant compte, jusqu'à présent, ce n'est pas du tout terminé, mais jusqu'à présent, jusque maintenant, il y a deux mois, c'est trois mois maintenant, et j'ai encore parlé avec un groupe qui était en train de commencer à construire des barrières, oui, pour entourer leur lopin de terre qu'ils venaient d'acheter. Alors elles ont bien conscience que ce sont les femmes qui doivent avoir leur propre titre de terre à elles.
Parce que justement, la structure normale sociale du Kenya fait que les titres de propriété, même au lendemain de l'indépendance, ont été donnés aux hommes, en fait, même qu'alors qu'ils ne sont pas sur les terres.
Voilà, exactement, oui, exactement, tout à fait. Avec le nouveau droit, le droit moderne, c'est souvent justement l'homme qui a le droit des titres. Et les relations matrimoniales ne sont pas très bonnes. Quand la pauvreté devient plus importante, les relations familiales deviennent plus faibles. C'est une des choses qu'on aperçoit souvent. Alors les femmes ont besoin de sécurité. C'est souvent un problème de sécurité, de crise qui peuvent arriver dans des familles, des femmes avec leurs enfants ou bien trois générations. Un besoin de sécurité aussi d'avoir la terre à soi. Et voilà, alors elles se sont organisées, elles ont acheté parfois des fermes importantes quand même, de 8000 hectares, 5000, 8000 hectares. Après, elles la subdivisent et puis chaque femme est chez elle avec sa famille. et elle redevient infirmière. Et c'est après ça qu'elle commence à s'embarquer dans d'autres problèmes, à résoudre d'autres problèmes, d'embarquer sur d'autres projets de développement, comme des canaux d'irrigation, comme justement des jolis tôles ondulés sur leur maison.
Il y a peut-être juste une chose qui m'étonne. Comment se fait-il que les femmes sont justement fermières et responsables d'organiser le travail sur la terre? Quand je dis les hommes ne sont pas là, c'est parce que, apparemment, ils ne sont pas là dans ce que vous nous racontez. Est-ce que les hommes, comme dans, hélas, beaucoup de situations dans les pays du tiers-monde, quittent souvent la demeure familiale pour aller faire autre chose et les femmes se retrouvent seules avec leurs enfants et la charge de mener à bien tout ce beau monde? C'est un peu cette même situation au Kenya?
Un peu cette même situation, oui, en effet, un peu. C'est-à-dire, il y a plusieurs éléments qui vont ensemble. Il y a un élément que les salaires pour les hommes sont bien meilleurs que celles pour les femmes, ou les possibilités de trouver un travail. Alors, même si le ménage est encore un ménage avec hommes et femmes et enfants, c'est dans la majorité des cas, c'est l'homme qui va en ville travailler. Ceci a à faire aussi avec la petite taille des terres qu'elles ont, quand ça ne suffit pas pour nourrir toute la famille, il y a sûrement un ou plusieurs membres de la famille qui va travailler en ville. Or, les salaires en ville ne suffiront jamais pour nourrir toute la famille. Alors, c'est la tendance, d'ailleurs, plus de 80% de la population au Kenya, d'avoir la famille dans les régions rurales et l'homme qui travaille en ville. L'homme il y a dans la famille. Dans quelques régions chez nous, à Laikipia, on avait plus de 50% de familles sans mari, c'est-à-dire une femme avec des enfants, peut-être une troisième génération avec un ami, mais peut-être pas de mari. En effet, beaucoup reposent sur leurs épaules, surtout que la tradition le voulait, que les femmes s'occupaient de l'agriculture et les hommes du bétail. Or, aujourd'hui, ils ont moins de bétail, alors les hommes font le travail en ville et les femmes ont encore l'agriculteur, mais aussi le petit bétail. Alors, c'est sur leurs épaules que ça repose.